Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans C'est ça la France, l'émission consacrée au savoir-faire français, c'est-à-dire en métropole, mais également en Outre-mer. Alors justement, hier a eu lieu un événement très important pour le monde économique des Outre-mer. Il s'agit de la 6e édition de la JOMD, la Journée Outre-mer Développement, qui est en quelque sorte le reflet du monde économique des Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou encore à La Réunion. Nous en parlerons tout à l'heure avec le cofondateur Cyril Comte. Nous évoquerons également une entreprise patrimoniale incontournable en Martinique, Un Indice. Elle fabrique un produit que l'on boit en apéritif ou en digestif avec modération. On l'utilise en cuisine, en pâtisserie, on le chante également. Réponse tout à l'heure. Enfin, vous verrez qu'en Outre-mer, la French Tech est très présente. C'est également une terre d'innovation. Et nous commençons donc tout de suite cette émission avec la Martinique au téléphone et Monsieur Cyril Comte. Bonjour Monsieur Comte.
Bonjour Madame.
Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur d'un rendez-vous qui est désormais incontournable, la JOMD, qui a été créé en 2009 et qui a lieu désormais tous les deux ans. Donc c'est un rendez-vous qui rassemble tous les acteurs économiques, hein, c'est ça?
Oui, absolument. On essaye de mettre en relation le monde économique, social et politique aussi, des Outre-mer avec la diaspora des talents, c'est-à-dire tous ceux qui ont quitté ces territoires pour faire des études et parfois mener des carrières en métropole.
Ça veut dire que tous les chefs d'entreprise viennent présenter leur savoir-faire, hein, qu'ils viennent de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe ou de La Réunion?
Alors, voilà, exactement. Alors, ils viennent présenter leur savoir-faire, mais surtout nouer des contacts.
Ah oui, c'est du networking.
Voilà, et recruter.
Ah oui.
Puisqu'on a des besoins d'encadrement dans les Outre-mer. Les formations supérieures ne sont pas toujours disponibles dans ces territoires qui sont souvent petits et dispersés. Donc, non seulement beaucoup de nos talents partent se former ailleurs.
En métropole ou ailleurs, oui.
Mais voilà, mais souvent ils ne rentrent pas forcément.
Comment vous l'expliquez ça, que vous ayez du mal à recruter des personnes en dehors de l'île?
Écoutez, une fois que vous êtes parti, vous vous êtes formé ailleurs, vous avez tendance d'abord à commencer votre carrière là où il y a le plus d'opportunités. C'est vrai que c'est pas forcément dans nos territoires. Et ensuite, en tout cas pendant sans la JOMD, d'une certaine façon, il n'y a plus d'espace de communication avec les entreprises locales. Et si en plus vous venez de métropole, mais que vous n'avez pas de lien particulier avec les Outre-mer, c'est encore plus compliqué, vous ne savez pas à qui vous adresser.
Ouais. D'une certaine les codes, façon, en fait, c'est savoir un petit peu comment fonctionne l'île, peut-être une façon de travailler,
oui,
un peu différente.
Oui, mais au-delà des codes, très concrètement, comme nous sommes en général... nos économies sont surtout composées de petites sociétés, de PME,
ah oui, d'accord.
Pas forcément très structurées en matière de recrutement. C'est difficile de savoir quels sont les postes disponibles, à qui s'adresser. Et très souvent, quand les entreprises des Outre-mer ont des besoins, eh bien, elles vont s'adresser éventuellement, si elles ne peuvent pas y répondre localement, à des cabinets de conseil qui vont relayer l'information sur l'ensemble du territoire national. Et c'est comme ça qu'on va avoir tendance finalement à recruter des gens qui n'ont pas forcément de lien d'origine, oui, avec ces territoires. Or, on se rend compte depuis 2009, justement, avec la JOMD, que c'est très intéressant de recruter des gens qui ont un lien avec le territoire, parce que ça augmente beaucoup à la fois la pertinence et la réussite de l'encadrement. Ils ne vont pas à l'aventure.
Il y a plus de chances qu'ils restent aussi plus longtemps sur place, j'imagine.
Exactement, ouais. Tout à fait. Absolument.
Alors c'est un rendez-vous qui est assez impressionnant, hein, la JOMD. Hein. J'ai eu l'occasion d'y assister, donc avec toutes les filières qui sont là, les chambres de commerce. Donc vous êtes parti de quel constat pour lancer justement
On est parti justement de ce constat qu'à l'époque, les sociétés les plus structurées des Outre-mer, qui sont malgré tout toujours des PME, avaient tendance à développer un encadrement composé de métropolitains. Et qu'il fallait pouvoir poser un discours particulier et rencontrer de façon privilégiée ceux qui venaient de ces territoires, en tout cas leur donner un accès privilégié.
Ouais.
Et en même temps, au-delà du simple recrutement, il était aussi utile de développer notre diaspora comme des ambassadeurs de nos territoires. Nous avions été frappés à l'époque, lors de la crise sociale qui a secoué les Outre-mer en 2009, que beaucoup des membres de la diaspora pouvaient être interrogés par les médias sur ce qui se passait dans ces outre-mer parfois lointains, et que finalement, même lorsqu'on en venait, on avait parfois les mêmes clichés ou idées rapides sur le fonctionnement de nos économies que tous les autres métropolitains.
D'accord, et combattre donc, un peu tous ces clichés, les idées reçues.
Voilà, il semblait utile que à ceux qui viennent au moins de nos territoires en soient de meilleurs ambassadeurs et puissent mieux parler à la fois de la réalité mais aussi de la complexité des Outre-mer.
Donc c'est des journées de rencontres mais il y a aussi des conférences. Hein. C'est cette journée des
Jeux. Oui, absolument.
Expliquez-nous.
Et les conférences participent de cette démarche de faire de meilleurs ambassadeurs par une meilleure connaissance de la situation, des perspectives, des enjeux.
Les problématiques communes ou pas. Alors dans cette émission, on met beaucoup en avant donc le Made in France, le savoir-faire français. Est-ce que cette notion de Made in France est aussi présente dans l'économie domienne? Est-ce qu'il y a du Made in Martinique, du Made in Guadeloupe?
Il y a du Made in Martinique, du Made in Guadeloupe, notamment à travers deux industries majeures. La banane, bien sûr, pour la Martinique et la Guadeloupe. Et puis la canne à sucre et surtout le rhum.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà, pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et donc beaucoup de nos territoires.
D'accord, il y a une fierté là aussi de mettre en avant son savoir-faire local.
Voilà, il y a un autre Made in France qui va être mis en valeur à l'occasion de cette journée de premier développement, c'est le rapport à l'espace. On a vu parfois qu'il était source d'incompréhension ou d'ambiguïté lors de la dernière crise sociale qui a secoué la Guyane, et nous aurons notamment le plaisir d'accueillir le plaisir d'accueillir le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, qui est venu justement approfondir tout ce que signifiait l'espace pour la Guyane et ce que la Guyane signifiait pour ce programme, qui est un des grands projets majeurs d'un Français.
Ouais. Bon, un beau programme en perspective. Merci beaucoup Cyril Comte et encore un grand bravo pour ce bel événement.
Merci madame.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
Alors en parlant de savoir-faire vernaculaire, et là en l'occurrence domien, il y en a un qui fait l'unanimité et qui est même un trait d'union entre tous ces domes, c'est le rhum. Il est temps de parler de notre entreprise patrimoniale du jour.
Sud Radio, c'est ça la France, le patrimoine du Made in France.
Bonjour Dominique de la Guignerée.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur France, non pas du rhum, mais des rhums, parce qu'il y en a plusieurs, Clément, donc il y a du blanc, il y a du vieux, du très vieux. On peut dire que cette marque, hein, c'est un peu la marque patrimoniale de l'île. Hein. C'est l'ambassadrice.
C'est vrai, c'est une marque emblématique de la Martinique, un des premiers lieux touristiques de la Martinique, donc un beau fleuron.
Oui, un beau fleuron. Alors, il paraît qu'il s'en consomme sur toute la planète 17 litres par seconde. En France, 48 millions de bouteilles se vendent chaque année. Bon, il y a la cuisine également, il n'y a pas que l'apéritif. Alors, c'est un vrai succès. Alors, il y a entre Charette, Belle Cabresse et vous, Damoiseau en Guadeloupe et Clément en Martinique. Donc, il y a différents types de rhum, hein, je le disais. Comment est-ce qu'on fabrique cette eau de vie?
Alors, c'est vrai que la France a cette chance d'avoir... à travers ces départements d'outre-mer, donc vous avez cité la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, et même maintenant Tahiti qui en fait un petit peu, de faire un rhum déception. Ce rhum déception, c'est un rhum agricole. C'est un rhum qui est issu de la distillation du pur jus de la canne à sucre, comme tout vénérable alcool, que ce soit une poire, une prune, une mirabelle, c'est le jus qui est mis à fermenter. Et donc, en Outre-mer français, nous faisons donc un rhum déception, qui est un rhum qui est issu de la distillation du pur jus de la canne à sucre. Contrairement aux autres types de rhum qui sont fabriqués dans le monde entier, parce que le rhum est un alcool international. Si je vous dis cognac, vous allez imaginer une région de France. Si je vous dis whisky, vous allez imaginer une région du monde.
Oui.
Alors que le rhum, il est produit dans tout l'hémisphère sud du globe. Et donc, pour se distinguer donc, de cet univers du rhum, de ce monde du rhum, la France, à travers ses départements d'outre-mer, produit un rhum déception, un rhum unique.
Donc on peut dire qu'il y a une spécificité française.
Entièrement.
Nous, on cultive la canne à sucre. pour faire du rhum.
Exactement.
Alors que dans les autres pays, on fait du sucre avec la canne à sucre et avec le résidu de la canne à sucre, on fabrique la mélasse, on fait le rhum.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'on fait aussi du rhum issu de la mélasse du sucre, hein, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, qui sont aussi de très bons rhums vieillis. Mais cette spécificité ultramarine est très liée au rhum agricole, qui est un rhum aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Et d'ailleurs, la Martinique a obtenu il y a 20 ans l'AOC. C'est la première
l'appellation d'origine contrôlée.
Donc, c'est la première fois qu'il y a un alcool blanc, donc un rhum, qui obtient cette appellation d'origine contrôlée.
Donc, on peut dire que le rhum français est le meilleur ? Est-ce que tout le monde s'accorde à le dire ou c'est un avis un peu chauvin ?
Non, ce n'est pas un avis chauvin. Parce
il y a un vrai consensus autour de ça.
Il est reconnu dans le monde entier et je crois que cette spécificité, cette qualité, cette renommée, maintenant, dépasse nos îles. Et je crois que c'est aussi un excellent ambassadeur de nos îles.
Ah, mais bien sûr.
Moi, j'ai beaucoup de fierté quand je vais dans un bar à Shanghai, à Milan, à Bruxelles, New York ou Paris, Londres, de voir dans ces bars une bouteille de nos rhums, de nos îles. Et je me dis, eh bien, quelque part, c'est le savoir-faire de ces îles qui est présent. C'est cette tradition, parce qu'il y a derrière chaque marque de rhum un savoir-faire, une passion.
Et on peut faire des parallèles avec l'univers du vin. Il y a l'équivalent des œnologues aussi, j'imagine, des gens qui...
Exactement. Et nous poussons aujourd'hui, nous allons vers le spiritourisme. Nos distilleries sont ouvertes dans toutes les îles. Et Dieu se sait si on a des marques de rhum. Et chaque marque de rhum a un ADN, a une identité. Et aujourd'hui, les producteurs de rhum sont contents, sont heureux de partager ce savoir-faire avec les visiteurs.
Vous en parlez très bien, avec beaucoup de passion. Vous ne donnez qu'une envie, c'est de prendre l'avion et d'aller visiter justement
je vous invite,
les coulisses du rhum Clément.
Parce qu'on on a envie de communiquer, on a envie de partager. C'est vraiment une rencontre entre le producteur et le visiteur. Et on veut que quand il quitte nos habitations, nos exploitations, nos distilleries, qui repartent avec cette passion qui nous anime et qui devienne un ambassadeur de nos rhums, là où il ira.
Merci beaucoup Dominique de la Guigneraie pour votre témoignage. On va se quitter le temps d'une courte pause et on se retrouve dans un instant pour continuer d'évoquer ce Made in Outre-mer.
Sud Radio, c'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France.
Et vous êtes toujours dans C'est ça la France pour cette spéciale Outre-mer. Et il est temps de nous intéresser à la jeunesse française qui innove, et là en l'occurrence depuis les Antilles.
Sud Radio, C'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Géraldine Anelka.
Bonjour.
Alors je tiens déjà à préciser que vous n'avez aucun lien de parenté direct avec le footballeur, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Pas tout à fait direct, non.
Alors vous avez créé le magazine Black In, qui est un magazine féminin numérique qui rassemble l'actualité féminine des Afro-Caribéennes. Comment vous est venue l'idée de créer ce magazine ?
En fait, en étant étudiante, je me demandais souvent qu'est-ce qu'il y avait à faire, pourquoi se cantonner à ce qu'on faisait dans la vie étudiante, pourquoi ne pas découvrir de nouvelles choses. Et c'est bien plus tard que j'ai eu l'opportunité de monter ce magazine, toujours sur cette idée-là, et ça a donné de la chance.
Alors, comment vous valorisez justement les initiatives des entrepreneurs ? Quels sont les profils que vous souhaitez mettre en avant dans le cadre de ce magazine ?
Alors, en fait, dans le cadre de ce magazine, on a la chance de travailler sur du multimédia. Et pour le coup, on a deux types de fonctionnement. Soit on écrit des articles qui valorisent les gens via des portraits. On va les rencontrer au sein de leur entreprise et on essaie d'expliquer au mieux via des articles print ce qu'ils font. Ou soit on le fait par la voie de la vidéo, qui est encore plus parlant, puisque ça nous permet de montrer aux gens et de rentrer vraiment dans l'univers des profils qu'on interroge et de faire en sorte qu'ils soient mieux valorisés.
Il y a beaucoup de jeunes start-up, des jeunes qui se lancent dans l'univers de la French Tech en Outre-mer.
Il y en a de plus en plus. On a plusieurs organismes qui nous aident à travailler sur la partie un peu tech, qui nous apportent des conseils, qui nous permettent de développer sur de plus en plus de secteurs qui ne sont pas forcément de prime abord liés à la technologie, mais qui peuvent avoir un intérêt sur le numérique. Et effectivement, on est accompagné et c'est de plus en plus intéressant de se positionner sur ce secteur.
Alors, vous, en tant que jeune entrepreneuse, en quoi la JOMD, donc la journée Outre-mer Développement, est importante pour vous? Alors, je rappelle que c'est un rendez-vous biannuel qui réunit, on a parlé tout au long de cette émission, au cours d'une journée, tous les acteurs économiques des Outre-mer.
Alors, déjà, la première chose, c'est de faire connaître le magazine. Ça me semble assez primordial. Et puis, nous, on est un magazine qui parle de lifestyle, qui est un générique. Enfin, généraliste, pardon.
Oui.
Et en tant que généraliste, en fait, on traite tous les sujets, notamment la partie business et réseau. Et dans notre rubrique business et réseau, ça nous semblait assez légitime d'aller rencontrer les professionnels directement là où ils se trouvaient, donc au sein de la JOMD pour le coup, et de faire en sorte que cette manifestation soit valorisée à la sauce blacking, puisque nous, on a pris le parti de faire une animation qui soit complètement ludique et originale.
Merci en tout cas pour votre intervention, Géraldine Anelka, et longue vie à ce magazine féminin numérique, et encore un grand bravo. Merci Géraldine Anelka.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Il est temps d'aller se balader dans les coulisses de nos entreprises françaises avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, le tourisme des savoir-faire avec Thibaut, le French Trotter.
Alors Thibaut, vous voyagez partout, donc je suis sûre que vous avez aussi des conseils de visite d'entreprises en Outre-mer.
Exactement Nathalie, effectivement il y a de très belles entreprises à voir en Outre-mer, notamment en Guadeloupe. Par exemple, tenez, du côté du Moule, au nord-est de Grande-Terre, il y a la sucrerie Gardel. Alors il faut savoir que Gardel, c'est le dernier producteur de sucre de la Guadeloupe continentale. Il y en a une autre à Marie-Galante, je crois. Alors c'est une usine qui va bientôt fêter ses 150 ans. Et elle produit chaque année autour de 70 000 tonnes de sucre.
Waouh.
Ils font du sucre blanc, du sucre roux, mais aussi de la mélasse pour la fabrication du rhum, on en parlait tout à l'heure.
Ça va être compliqué à faire avec des enfants, non? Ils ont envie de goûter à tout, à toutes les étapes.
Non, au contraire, c'est parfait pour eux, parce que tous les sens sont en éveil, c'est un vrai spectacle.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette visite?
Alors si je me souviens bien, c'est un ancien employé qui fait la visite, il vous explique tout le processus de fabrication du sucre. Alors c'est depuis la récolte de la canne jusqu'au produit fini. Ça commence par le balai des camions qui déversent leur cargaison de canne à sucre. Ça passe par les portails géants, c'est exceptionnel. C'est la canne à sucre qui vient de toute la Guadeloupe. Ensuite, dans l'usine elle-même, on fait un petit peu le parcours de la canne. Alors, si ma mémoire est bonne, il y a 4 ou 5 étapes, et tous les sens sont en éveil, parce qu'il y a l'odorat, et il y a des tas d'odeurs qui vous marquent. Il y a la vue, évidemment, parce qu'on voit cette canne qui est d'abord défibrée, broyée par une série de moulins. Ensuite, on obtient une espèce de jus qui est cuit à haute température. Moi, j'ai encore en tête cette odeur du sirop qui cuit.
Et le goût du sucre, vous en rappelez?
Et le goût du sucre, bah oui, parce que le goût du sucre, c'est un sucre d'une pureté incroyable, quoi. Ça n'a rien à voir avec le sucre que vous avez en métropole. Il a un goût particulier, je dirais même qu'il est à la fois goûteux et parfumé.
Alors, Dominique de la Guignerie, vous avez déjà eu l'occasion de visiter des sucreries?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai baigné dedans.
Alors, vous avez baigné dedans. Alors, c'est vrai qu'il y a un goût particulier, comme dit Thibaut?
Il y a des arômes exceptionnels. Beaucoup vous diront peut-être de fruits confits, mais ce goût du sucre, c'est un peu notre Madeleine de Proust. On l'a en nous et... on retrouve vraiment toute une fraîcheur dedans et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec tout le sucre raffiné qu'on trouve ici.
Ouais, c'est un goût exceptionnel. Alors Thibaut, c'est en plus une entreprise qui a la pointe du recyclage.
Oui, parce que je me suis renseigné en fait, c'est un modèle d'économie circulaire. Par exemple, le résidu de canne à sucre, la bagasse, est acheminée directement à l'usine de production d'électricité qui est juste à côté.
Exactement.
En fait, elle sert de combustible, la bagasse sert de combustible. Et en échange, EDF fournit l'électricité de Gardel. Et je sais aussi que les boues aussi sont récupérées pour servir d'engrais.
C'est exactement ça, Dominique de la Guignerie?
Oui, exactement. Il y a la Martinique qui est en train aussi de s'équiper auprès de l'usine du Galion, la Réunion aussi. Donc on utilise cette bagasse pour produire de la vapeur et qui permet de faire tourner des turbines et EDF produit de l'électricité. Donc c'est vrai que c'est un cycle. Et c'est vrai que les bouts de ce résidu...
Oui, ça, c'est le résidu.
Hein, ce résidu, ce qu'on appelle des vinasses, permettent d'enrichir les sols, Donc, on est un petit peu dans un cercle fermé et qui permet de valoriser au maximum cette merveilleuse plante.
On est dans l'économie circulaire.
Exactement.
Il y a une autre tradition de distillation dont vous vouliez nous parler ce matin, Thibault.
Ouais, et ça se passe à la Réunion, c'est la distillation du géranium. Parce que vous savez que la Réunion a été longtemps le premier producteur mondial de géranium. Et il y a une entreprise qui perpétue cette tradition, c'est la coopérative agricole des huiles essentielles du Bourbon. Et comme son nom l'indique, elle produit des huiles essentielles, 100% pures et naturelles, ainsi que des huiles alimentaires, et des huiles de massage et des parfums.
Donc il y a un peu de vanille dans tout ça.
Il y a un peu de vanille dans tout ça. Alors la visite est très bien conçue. Tout se passe à la coopérative qui est au Tampon, au sud de l'île. On commence par découvrir un jardin au centre de l'océan Indien. On y trouve plein de variétés de géranium, mais aussi des vétivers. Vous savez que le vétiver, c'est la plus ancienne des plantes à parfum de la Réunion.
Donc on apprend tout le processus de distillation.
Sûr, effectivement, tout se passe dans des alambics géants. Ils peuvent contenir jusqu'à 300 kilos de géranium. C'est énorme. Et c'est d'ailleurs au Tampon que la plupart des producteurs de l'île viennent y distiller leurs fleurs.
Et je crois, de mémoire, qu'ils ont même un atelier, non ?
Oui, ils ont des ateliers. Alors, ils ont des ateliers de création de parfums. Vous pouvez y créer votre propre eau de toilette. Il y a aussi un atelier de découverte olfactive qui consiste à découvrir ou à redécouvrir les matières premières locales.
Donc on a le choix entre le sucre ou le parfum aujourd'hui.
Entre le sucre ou le parfum, voilà.
Merci beaucoup,
Mais
Thibault.
Pour ceux qui ne peuvent pas aller à La Réunion, je les invite à aller au Salon de l'Agriculture et à l'espace de La Réunion. Ils pourront découvrir effectivement toutes ces huiles essentielles.
Une très très belle idée, effectivement. En plus, c'est fin février, on approche, hein, ça approche à grands pas. Merci encore, Dominique de la Guignerée, d'avoir été notre invité fil rouge de cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est ça la France.
Sud Radio, C'est ça la France.